Chapitre 5. Une gasconnade. Gaëtan Nompart Francequin de Castelrajac avait quitté l'hôtel du Faisan d'Or et s'était dirigé vers le presbytère. C'était une petite maison qui se dressait à l'entrée du pays, au milieu d'un grand jardin, aux allées bordées de buis où s'épanouissaient çà et là, dans un désordre pittoresque, de belles fleurs qui embaumaient les airs de leurs parfums et parmi lesquelles bourdonnaient joyeusement les abeilles. Après avoir poussé la petite barrière, Gaëtan longea l'allée principale, contourna la maison et s'enfut sur une petite terrasse ombragée de tilleuls d'où l'on découvrait un panorama magnifique sur la vallée de la Garonne. Un vieux prêtre à cheveux blancs, un peu cassés par l'âge, le nez chevauché par une énorme paire de besicles, était en train d'émietter du pain qu'il jetait aux moineaux. L'arrivée du chevalier fit envoler les gentils oiseaux et provoqua un mouvement d'humeur du vénérable prêtre qui se traduisit par ces mots. « Ah ça, qu'est-ce qui vient me déranger et faire peur ainsi à mes petits amis ?»« Excusez-moi, monsieur le curé, » lança Castelrajac, « mais rassurez-vous, vos petits amis ne tarderont pas à revenir. »« Je ne me trompe pas, c'est bien toi, mon cher Gaëtan, » s'exclama le prêtre. Et, d'un ton un peu chagrin, il ajouta. « Décidément, ma vue baisse de plus en plus, mon pauvre enfant. Je ne t'aurais pas reconnu. J'ai bien peur que d'ici peu, je ne devienne complètement aveugle. » Et, avec un accent de résignation, il ajouta. « Si le bon Dieu le veut, qu'il en soit ainsi. Mais ne nous attardons pas à ces pénibles pensées. » Après avoir serré affectueusement la main de son ancien élève, l'abbé Murat reprit. « Je te croyais parti pour un long voyage. » « Mais oui, monsieur le curé. » Malheureusement, il m'est arrivé en route un accident plutôt fâcheux. Aurais-tu été détroussé par des voleurs? Non point, monsieur le curé. Alors, j'ai commis un gros péché. Lequel, grand Dieu? S'effarait l'abbé Murat. Je suis papa. Seigneur, s'exclamait le vieux prêtre en joignant les mains. Que me dis-tu là? Père, tu es père? En dehors des saintes lois de l'Église? Oui, monsieur le curé. Ah ça? Tu as donc oublié un commandement de Dieu qui dit « œuvre de chair accomplira en mariage seulement » Hélas, oui, monsieur le curé, je l'ai complètement oublié. Malheureux ! Mais je me repens amèrement. Tout en affectant un chagrin qui, à tout autre que le bon vieux curé de Saint-Marcellin, aurait pu apparaître singulièrement exagéré, Gaëtan, qui avait soigneusement préparé son récit, poursuivit. Monsieur le curé, je ne suis pas venu seulement vous demander une absolution, mais je suis aussi venu vous prier de bien vouloir baptiser ce petit innocent dans le plus bref délai. Comment, il est ici? Oui, monsieur le curé, à l'hostellerie du Faisan d'Or. Et la mère? Ah, la mère, la pauvre, elle est morte en donnant le jour à cet enfant. Dieu ait pitié de son âme. Oh oui, monsieur le curé, car en dehors de sa faute, c'était un ange et c'est moi le seul coupable. En voyant ainsi son ancien disciple s'humilier, l'abbé Murat sentit toute son indignation se transformer en une pitié sans bornes. « Où demeurait cette jeune personne ? » demanda-t-il. « Entre Agen et Marmande, et c'était pour la retrouver que j'avais raconté que je partais en voyage. Encore un mensonge de plus ! Ah, monsieur le curé, j'ai sur le dos un bien lourd fardeau de péché. Elle avait de la famille ? » « Orpheline, monsieur le curé, » déclara Gaëtan, qui jugeait utile de simplifier les choses. Elle demeurait chez une de ses parentes qui, d'ailleurs, la rendait très malheureuse. Le vieux prêtre réfléchit pendant un instant, puis il reprit. « Est-ce que tes parents sont au courant de ce grand malheur ? Je ne leur en ai point parlé encore. Il faudra leur dire toute la vérité. C'était bien mon intention. Cela va bien amener du trouble dans leur existence. » « Certes, reconnaissait le chevalier, mon père va pousser des hauts cris, me maudire, je le crains. Maman va se lamenter et invoquer le bon Dieu, j'en suis sûre, mais quand ils verront le petit, tout rose, tout frais, tout mignon, ne demandant qu'à vivre, ah, je les connais tous les deux, mon cher père et ma chère mère. Ils seront immédiatement désarmés, ils se mettront à aimer ce petit bâtard de Castelrajac, tout autant que s'il eût été mon fils légitime. » « Monsieur le curé, je suis un grand coupable, je l'avoue, mais aidez-moi à faire de ce petit d'abord un bon chrétien, puis un bon chevalier. » De grosses larmes apparaissaient au bord des yeux de l'excellent prêtre qui reprit d'une voix tremblante d'émotion. « Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Je ne puis que me conformer à la parole du divin maître. Qu'en veux-tu, mon cher fils, que je baptise ton garçon ? Dès que vous le voudrez, le temps d'aller chercher les deux témoins qui doivent signer sur le registre de la paroisse. Il est 2 heures de l'après-midi, voulez-vous que vers 4 heures nous nous présentions à l'église ? À 4 heures moins le quart, je ferai donner le premier son de cloche. Auparavant, tu vas venir avec moi à l'église, car il faut que je reçoive ta confession. « Ah, monsieur le curé, répliqua le jeune Gascon, vous venez de l'entendre et je ne pourrais, hélas, que vous répéter les mêmes paroles. Ne suffirait-il pas que je m'agenouillasse devant vous pour que vous traciez au-dessus de mon front le signe qui purifie ?» Le curé de Saint-Marcellin regarda son élève et pénitent avec un air de bonhomie affectueuse qui montrait que celui-ci l'avait déjà entièrement désarmé, puis il fit. « Allons, qu'il en soit ainsi. » Tandis que le jeune Gascon se courbait devant lui, le digne ecclésiastique, à 100 lieues de soupçonner que Gaétan, pour sauver l'honneur d'une femme et pour assurer l'avenir d'un enfant aussi dangereusement exposé, s'était cru le droit de le berner, murmura les paroles sacramentelles qui allaient laver l'intrépide chevalier d'un péché qu'il n'avait pas commis. Se relevant, Castelrajac s'écria. « Monsieur le curé, je ne puis que vous remercier du fond du cœur de votre bonté et de votre évangélique indulgence. Donc, à 4 heures précises, nous serons tous à l'église. » Il s'en fut, enchanté du succès qu'il venait de remporter, et il regagna prestement l'hostellerie du Faisan d'Or. En franchissant le seuil, une exclamation de joie lui échappa. Il venait d'apercevoir, attablé devant un pichet de vin frais et choquant cordialement le gobelet d'étain plein jusqu'au bord, deux gentilshommes aux allures de campagnards, l'un un énorme gaillard taillé en Hercule, aux moustaches et à la barbiche conquérante, l'autre mince, bien découplé, nerveux et formant avec son compagnon le plus frappant des contrastes. « À Signac, la parade !» s'exclama Castelrajac de sa voix sonore. Les deux buveurs se retournèrent et, apercevant Gaétan qui s'avançait la main tendue, ils eurent simultanément un cri de joie. L'énorme Assignac secoua le bras de Gaétan avec une force capable de déraciner un jeune peuplier. Quant à monsieur de la parade, il la serra avec toute la distinction d'un homme de cour. Hector d'Assignac attaquait avec un gros rire qui faisait tressauter sa bedaine. « Heureux coquin, joyeux drille, coureur de Guilledou !» Il accompagnait chacune de ses épithètes d'un vigoureux coup du plat de la main sur ses cuisses monumentales. « Qu'est-ce qu'il a, mon cher Henri ?» demanda Castelrajac à monsieur de la parade. « Nous savons tout !» déclara l'élégant Henri. « Quoi ? Qu'est-ce que vous savez ?»« Que tu as ramené de voyage une fort jolie femme avec un délicieux poupon, et voilà pourquoi nous t'adressons nos félicitations les plus vives. » « Qui vous a raconté ça ?» interrogea Castelrajac en feignant le mécontentement. « Ah, voilà ! Cette bavarde de Madame Lopion !» Et, simulant la colère, le chevalier s'écria. « Elle va me le payer cher, cette satanée commère !» Mais, se ravisant tout à coup, il fit. « Après tout, non, car mon intention était bien, mes chers amis, de vous mettre au courant de l'aventure qui m'arrive. J'ai en effet ramené de voyage une fort jolie femme et un délicieux poupon, mais si je suis le père de cet enfant, la dame n'en est que la marraine, car la vraie maman... » Gaétan s'arrêta, comme pour donner plus d'importance à ses paroles, puis, sur un ton grave et mystérieux, « Au nom de l'honneur, je vous demande de ne point m'interroger à ce sujet. »« Nous serons discrets, » affirma le colossal Hector. « Nous nous tairons, » enchaîna le très aimable Henri. Castelrajac reprit. « J'ai un autre service à vous demander. »« Lequel ?» firent ensemble les deux amis. « Tout à l'heure, je vais faire baptiser mon fils. » Je ne puis pas vous demander à l'un ou à l'autre d'être son parrain, mais je vous prie de bien vouloir signer sur le livre de baptême. » Très volontiers, acceptèrent les deux gentilshommes. Alors, rendez-vous à l'église à 4 heures précises. Nous y serons. Ils échangèrent de nouvelles poignées de main, et, tandis qu'Hector réclamait un nouveau pichet, Gaétan rejoignit Madame de Chevreuse et Mazarin, qui avaient eu tout le loisir de s'entretenir d'une façon plus directe des événements qui venaient de se dérouler et de ceux dont ils attendaient la venue, non sans inquiétude. La figure réjouie de Castelrajac les réconforta un peu. « Tout va bien, » annonça-t-il, « tout s'est même passé admirablement. Mon bon vieux curé a été magnifique. Le baptême est fixé pour 4 heures. D'ici là, je vais avoir le temps de m'occuper du petit. » Et, se tournant vers Mazarin, il ajouta « Il est toujours bien entendu, mon cher comte, que vous lui servez de parrain. »«
Mais certainement !»
Avec un éclair de joie dans le regard, le Gascon demanda « Cela ne vous contrarie pas trop que je me fasse passer pour le papa du petit ?»«
Non, répliqua l'amant d'Anne d'Autriche, car je suis sûr que vous en ferez un vrai gentilhomme dont son véritable père ne pourra que s'enorgueillir un jour. »
« Je m'en porte garant, » affirma la duchesse. « Je vous quitte pour aller prendre toutes mes dispositions, » déclara Castelrajac. Sans doute ménageait-il à ses adversaires futurs un nouveau tour de sa façon, car ses yeux pétillaient de malice. Ainsi que l'avait annoncé le bon curé de Saint-Marcellin, à 4 heures moins le quart, la cloche de l'église commença à tinter. Dans le pays, le bruit s'était répandu que le chevalier Castelrajac allait faire baptiser son fils. Cette nouvelle avait provoqué dans tout le village un mouvement de curiosité qui avait précipité vers l'église toutes les commères du pays. Lorsque le cortège pénétra sous la voûte, tous les bancs étaient occupés. Précédée du Bedeau, Madame de Chevreuse, qui portait elle-même sur un coussin enveloppé dans des flots de dentelle le précieux nourrisson, s'avançait, ayant à ses côtés le comte Capelloni, ou plutôt Monsieur de Mazarin. Derrière eux suivait le chevalier, plus vibrant que jamais, et semblant défier à la fois du regard et du sourire tous ceux qui se seraient permis de blâmer sa conduite. Il était escorté d'Hector d'Assignac, imposant et solennel, et d'Henri de la Parède, souple et désinvolte. Après s'être agenouillé devant le maître-autel et avoir été béni par le curé qui, assisté de 2 enfants de cœur, s'était avancé vers eux, ils gagnèrent la chapelle latérale où se trouvaient les fonts baptismaux. La cérémonie s'accomplit suivant le rite habituel, puis, toujours précédé par le curé, le cortège se rendit à la sacristie. Le parrain, la marraine et les 2 témoins apposèrent au-dessous de la déclaration de naissance et de baptême, qui était alors le seul acte officiel reconnu par la loi, leur signature et leur paraphe. Mazarin signa naturellement comte de Capelloni et la duchesse Antoinette de Lussac. Puis le cortège regagna l'église qu'il traversa sur toute sa longueur. En arrivant sous le porche, la duchesse de Chevreuse, qui portait toujours l'enfant sur son coussin, pâlit légèrement. Elle venait d'apercevoir, debout sur les marches de l'église, revêtus de leur manteau marqué d'une croix blanche, plusieurs gardes du cardinal qui la considéraient d'un air goguenard. Mazarin, qui s'en était aperçu lui aussi, ne broncha pas et murmura à l'oreille de la duchesse « Ils sont arrivés, maître Otard. Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre. » « Qu'en savez-vous ? » soupira Marie de Rohan. « J'ai confiance en votre chevalier. » Quant à Castelrajac, il s'était contenté de toiser les gardes de Richelieu. Quand il passa près d'eux, il se retourna pour dire à haute voix à ses amis d'Assignac et de la Parède. « Ah ça ! Que viennent donc faire ces gens dans notre pays ?» Un des gardes, fort gaillard, à la figure farouche et à l'aspect peu engageant, allait répliquer au Gascon, mais un de ses compagnons lui posa la main sur l'épaule. Gaétan, se retournant pour dévisager encore une fois ceux qu'il considérait comme ses ennemis, le garde dit à son camarade « Ce n'est pas le moment de provoquer un esclandre. Nous avons l'ordre d'agir promptement et sans tapage. Son éminence ne nous pardonnerait pas de lui avoir désobéi. Laissons-les rentrer tranquillement à l'auberge. » Au même moment, 2 hommes sortaient d'un des bas-côtés de l'église, dans l'ombre duquel ils s'étaient dissimulés. L'un, vêtu de velours noir, sur lequel tranchait la blancheur d'un col en toile blanche, n'était autre que Monsieur de Durbecq. L'autre portait l'uniforme du capitaine des gardes du cardinal. Il s'appelait le baron de Savière. Le chevalier de Durbecq fit « Tout est bien convenu, vous avez bien saisi les instructions du cardinal. » Le capitaine résuma « Il s'agit d'abord de nous emparer de l'enfant, puis d'emmener la duchesse au château de Montgiron où il faudra qu'elle s'explique sur son rôle dans cette affaire. »«
Très bien, » approuva Durbecq. « Je vous recommande encore une fois la prudence. Les gardes du corps dont elle est entourée ne sont pas nombreux, mais ils sont de taille à nous mener la vie dure. N'oubliez pas non plus que le cardinal tient essentiellement, et pour des raisons connues de lui seul, que Monsieur de Mazarin ne soit ni molesté ni même inquiété. » Quant aux autres, pas de quartier, telle est la consigne. Cela, mon cher capitaine, vous simplifiera singulièrement la tâche. Maintenant, vous allez immédiatement, avec vos hommes, simuler un départ. Vous aurez soin de dire à haute voix, à l'hostellerie du Faisan d'Or, que vous partez pour Toulouse préparer les appartements du cardinal qui doit se rendre prochainement dans cette ville. De cette façon, les méfiances de M. de Mazarin et de la duchesse de Chevreuse seront endormies et leur vigilance, ainsi que celle de leurs amis, ne pourront que s'en atténuer. Le capitaine fit un signe d'acquiescement, puis il ajouta : Nous pourrons donc, dès la nuit venue, nous livrer à une perquisition en règle à l'hostellerie. Tandis que M. de Durbecq quittait l'église par une petite porte qui donnait sur la campagne, le capitaine des gardes en sortait ostensiblement et, après avoir rallié ses hommes, il les entraîna jusqu'au Faisan d'Or où il leur dit à haute voix : Restaurez-vous copieusement, car nous allons faire cette nuit une rude étape. Les gardes s'installèrent devant des tables inoccupées et se commandèrent un copieux repas. Lorsqu'ils achevèrent leurs agapes, la nuit était venue. Un appel de trompette retentit. C'était le signal du départ. Tous se levèrent de table et regagnèrent la cour où leur chef, déjà en selle, les attendait. Enfourchant à leur tour leur monture, ils gagnèrent aussitôt la grande route de Toulouse, suivie du regard par Mazarin et Castelrajac, qui, dissimulés dans l'ombre, avaient assisté à leur départ. Tous deux, en effet, avaient entendu dire par Madame Lopion que les gardes du cardinal partaient pour Toulouse, mais ils n'en avaient pas cru un mot, persuadés que ce n'était qu'une feinte et qu'ils n'allaient point tarder à revenir. Monsieur de Durbecq en était donc pour sa ruse, d'ailleurs cousue de fil blanc. Plus que jamais, les deux alliés allaient se tenir sur leur garde. Quelques instants après, ils étaient rejoints par Hector d'Assignac et Henri de la Parède, auxquels déjà Gaétan avait raconté qu'on voulait lui voler son fils. Cela avait suffi pour enflammer l'ardeur de ses deux amis, enchantés de se trouver mêlés à une aventure à la fois mystérieuse, galante et chevaleresque. Monsieur de Mazarin, tout en saisissant Gaétan par le bras, lui dit « Je crois que cette nuit nous allons avoir à en découdre. » Le colossal Hector s'écria « À la bonne heure, moi j'aime ça !» L'ardent et subtil Laparède ajouta : Nous allons montrer à ces gens de Paris de quel bois se chauffent les cadets de Gascogne. En attendant, proposa Castelrajac, si nous faisions une ronde autour de la maison, car il n'y a rien d'extraordinaire que ces drôles eussent laissé derrière eux quelques mouchards. Vous pouvez en être sûr, déclara M. de Mazarin. Au premier abord, ils ne remarquèrent rien de suspect. La rue était déserte. Dans la cour, en dehors d'un valet d'écurie qui aidait à descendre de sa monture un voyageur, aucune figure inquiétante ne se manifestait. Il faut croire que les agents secrets de M. de Durbecq possédaient l'art de se rendre invisibles, à moins que, fatigués de leur filature, ils eussent été soupés. Malgré cela, Castelrajac, qui n'était qu'à moitié rassuré, proposa à son ami de monter la garde à tour de rôle afin de prévenir toute attaque imprévue. Et, tirant son épée tout en appuyant la pointe de son arme contre le sol, « Maintenant, fit-il, ils peuvent venir, ils seront bien reçus. » Quant à Mazarin, Hector d'Assignac et Henri de la Parède, ils se firent ouvrir une chambre dont une des fenêtres, placée à l'angle de l'hostellerie, leur permettait de surveiller efficacement la rue. Une heure passa, sans le moindre incident, lorsque le chevalier Gaétan, qui avait l'oreille aux aguets, crut entendre derrière lui un bruit de pas très léger s'avançant dans sa direction. Brusquement, il se retourna, l'épée en avant, mais il n'eut pas le temps de faire un geste. Subitement coiffé d'un sac en drap noir, empoigné par les bras, tiraillé par les jambes et jeté à terre en un clin d'œil, il se sentit ligoté, bâillonné et dans l'impossibilité d'opposer à ses assaillants la moindre résistance. À l'intérieur de l'hostellerie, une autre scène se déroulait, non moins rapidement que celle que nous venons de décrire. Le capitaine baron de Savière, après avoir fait irruption dans la salle à la tête de 12 de ses gardes, escaladait rapidement l'escalier qui conduisait à la chambre occupée par Madame de Chevreuse et heurtait à la porte en disant « Ouvrez, au nom du roi !» À peine avait-il prononcé ces mots que Assignac et Laparède apparaissaient sur le palier. Ils allaient dégainer. Ils n'en eurent pas le temps. Les gardes du cardinal se précipitaient sur eux et les refoulaient dans leur chambre, les désarmaient et leur faisaient subir le même sort qu'à leur ami. Quant à M. de Mazarin, il avait disparu. Nous revenons à la duchesse de Chevreuse, qui s'était empressée d'obéir à l'injonction de monsieur de Savière et lui avait ouvert toute grande sa porte. « Que voulez-vous de moi ? » lui dit-elle, en dévisageant d'un œil sévère l'intrus qui se présentait à elle d'une façon aussi cavalière. « Je suis le baron de Savière, capitaine des gardes de son éminence le cardinal de Richelieu. « Je vous reconnais fort bien, monsieur, déclara la duchesse, et je ne suppose pas que vos fonctions vous donnent le droit de vous conduire d'une façon aussi peu chevaleresque. « Madame la duchesse, riposta le capitaine avec beaucoup de calme, je suis chargé d'une mission que j'ai le devoir d'accomplir jusqu'au bout, et qui consiste sans doute à vous emparer de ma personne. « Non, madame la duchesse, mais à vous prier de bien vouloir vous rendre jusqu'au château de Montgiron, où je serai prisonnière. « Madame, je l'ignore. Je suis également chargée de vous demander de me remettre immédiatement un enfant que vous avez amené ici. « Ah, vraiment ? » ironisa la duchesse. « Arrêter une femme et s'emparer d'un enfant est un double exploit qui ne m'étonne point de la part de celui qui vous envoie jusqu'ici, mais qui, véritablement, est indigne du gentilhomme et du soldat que vous êtes. » Savière eut un imperceptible frémissement. Le coup avait porté, mais il lui était impossible de reculer. Il se tut en se mordant les lèvres. Profitant de cet avantage, madame de Chevreuse, surprise de la carence de ses amis et craignant qu'ils ne fussent tombés dans quelque guet-apens, reprenait pour gagner du temps. « Je suis surprise, monsieur le capitaine, que votre maître n'ait pas plutôt choisi pour remplir son exploit, un des nombreux espions qu'il entretient à sa solde. » Devinant la ruse de son interlocutrice, Savière reprit. « Je ne suis pas ici, madame la duchesse, pour discuter avec vous des raisons qui font agir monsieur le cardinal, pas plus que sur les moyens qu'il a cru devoir employer à votre égard. Je ne puis que vous répéter ce que je viens de vous dire, et je vous demande instamment de ne pas me contraindre à employer la force. Vous oseriez lever la main sur moi ? La plus noble dame de France, répliqua le capitaine, cesse de l'être lorsqu'elle conspire contre son roi. Alors, s'écria Marie de Rohan en éclatant d'un rire forcé, « Je suis une conspiratrice. Décidément, monsieur le capitaine, vous êtes bien mal informé. J'ignore ce qu'on a pu vous conter à mon sujet, ou plutôt je m'en doute. La vérité est tout autre. Vous avez simplement, uniquement, devant vous, une femme qui a juré de sauver à tout prix l'honneur d'une de ses amies. Maintenant, je n'ajouterai plus un mot. » Et, désignant d'un large geste la porte de la chambre voisine, elle fit. « L'enfant est là. Auriez-vous le courage d'aller le prendre ?» Savière eut un instant d'hésitation, car madame de Chevreuse lui avait parlé avec un tel accent d'indignation et de noblesse que, pour la première fois depuis qu'il était au service du cardinal, il se demandait si véritablement son maître ne lui avait pas ordonné de commettre une mauvaise action. Cette pensée ne dura en lui que l'espace d'un éclair, non point par crainte des représailles, car Savière était brave, et il était de ceux qui savent prendre leurs responsabilités, mais uniquement parce qu'il avait fait au cardinal le serment de lui obéir en tout et pour tout, même au péril de sa vie. Il se dirigea vers la porte de la chambre et l'ouvrit toute grande. La pièce était à demi éclairée par la lueur d'une veilleuse placée près d'une petite table, à côté d'un grand lit qui n'était occupé par personne et dont la couverture n'avait pas été défaite. Au pied du lit, un berceau aux rideaux fermés attira l'attention du capitaine qui, en trois enjambées, le rejoignit. Soulevant les rideaux, il aperçut un enfant tourné sur le côté et qui semblait profondément endormi. Il s'en empara, le plaça sous son manteau et rejoignit la duchesse de Chevreuse qui venait de réprimer un indéfinissable sourire. « Maintenant, madame la duchesse, êtes-vous décidée à vous rendre au château de Montgiron ? « Je tiens à vous dire que toute résistance est inutile, car mes gardes ont déjà mis à la raison trois des gentilshommes qui s'étaient constitués vos défenseurs. Quant au quatrième, c'est-à-dire monsieur de Mazarin, il a réussi à nous échapper, mais je doute qu'à lui seul il soit de taille à nous mettre en déroute. » La duchesse pensa, « Mon pauvre Gaétan, pourvu qu'il ne l'ait pas égorgé ainsi que ses amis. Enfin, Mazarin est libre, tout espoir n'est donc pas perdu de remporter une revanche sur nos ennemis. » Et, jugeant pour l'instant toute résistance inutile, elle reprit. « Soit, monsieur le capitaine, je vous accompagne. Je ne vous demande qu'une grâce. Rendez-moi cet enfant, car nous autres femmes savons beaucoup mieux les porter dans nos bras et ce pauvre petit a grand besoin de ménagement. » Savière se laissa fléchir par cette requête et remit le nourrisson à la duchesse qui, l'enveloppant dans un des pans du manteau qu'elle avait jeté sur ses épaules, l'emporta tendrement contre sa poitrine en disant « Heureusement qu'il ne s'est pas réveillé. » « Le fait est, déclara Savière, enchantée du succès de sa mission, que je n'ai pas encore vu un petit enfant dormir aussi profondément. » Quelques minutes après, Madame de Chevreuse, qui n'avait pas lâché son précieux fardeau, montait dans un carrosse dans lequel deux gardes prirent place en face d'elle et, entourée d'une solide escorte que commandait le capitaine, le véhicule, traîné par quatre chevaux vigoureux, disparut bientôt dans la nuit. Monsieur de Mazarin, descendant alors de la cheminée dans laquelle il s'était réfugié, commença par aller délivrer Hector d'Assignac et Henri de la Parède et, après les avoir mis au courant des faits qui venaient de se dérouler, il descendit avec eux à la recherche du chevalier de Castelrajac. Ils se heurtèrent aux époux Lopion qui, encore épouvantés, se livraient aux lamentations et aux imprécations les plus vives contre ceux qui les avaient troublés dans leur sommeil et risquaient de faire passer leur hostellerie pour une gargote malfamée et peu hospitalière. Mazarin imposa silence à leur criaillerie. Tout de suite, il leur demanda « Avez-vous vu le chevalier de Castelrajac ?»« Non, monsieur, s'écria l'aubergiste, et je ne tiens même pas à le revoir, car c'est bien de sa faute si aujourd'hui nous avons à subir tous ces désagréments. Assez de jérémiades, et donnez-nous tout de suite des lanternes, afin que nous puissions nous mettre à la recherche de notre ami. » Tout en grognant, Madame Lopion allait s'exécuter lorsque, les vêtements en désordre, les cheveux en broussaille, la chemise déchirée, Gaëtan de Castelrajac, qui avait réussi à se débarrasser des liens qui l'entouraient et à sortir du sac qui l'aveuglait, apparut, clamant d'une voix rauque. « Les misérables viennent d'emmener la duchesse au château de Montgiron. Je les ai entendus partir. Leur capitaine leur donnait des ordres. Il faut absolument aller là-bas, leur arracher cette malheureuse. Sans cela, elle est perdue. » Et, se tournant vers Mazarin, il ajouta « Pour que le capitaine s'acharne avec autant de cruauté sur cette femme et cet enfant, il faut… » Il n'acheva pas. Monsieur de Mazarin, lui prenant la main, lui dit « Vous avez raison, mon cher chevalier, il faut à tout prix sauver la duchesse. Nous la sauverons, » fit le Gascon, avec une énergie que l'on devinait sans limite.